C'est une leçon par la suite.
À présent, me demandai-je dans l'appartement de Belbeau, en finissant de lire ses confessions, que dois-je faire, moi? Aller chez Garamond, ça n'a pas de sens. De Angelis est parti. Diotalevi a dit tout ce qu'il avait à dire. Lia se trouve loin, dans un endroit sans téléphone. Il est 6 heures du matin, samedi 23 juin. Et si quelque chose doit arriver, ce sera cette nuit, au conservatoire. Je devais prendre une décision rapide. Pourquoi, ne me demandais-je pas l'autre soir dans le périscope, n'as-tu pas choisi de faire semblant de rien? Tu avais devant toi les textes d'un fou qui parlait de ses entretiens avec d'autres fous et de son dernier entretien avec un moribond surexcité ou surdéprimé. Tu n'étais même pas sûr que Belbeau t'avait téléphoné de Paris. Peut-être parlait-il à quelques kilomètres de Milan, peut-être de la cabine du coin. Pourquoi fallait-il que tu te fourres dans une histoire peut-être imaginaire qui ne te concerne pas? Mais cela, je me le demandais dans le périscope alors que mes pieds s'engourdissaient, que la lumière déclinait, que j'éprouvais la peur innaturelle et très naturelle que tout être humain doit éprouver la nuit, seul, dans un musée désert. Ce matin-là, par contre, je n'avais pas peur, de la curiosité, rien d'autre, et peut-être le sens du devoir ou de l'amitié. Et je m'étais dit que je devais aller moi aussi à Paris. Je ne savais pas bien pourquoi faire, mais je ne pouvais pas laisser Belbeau tout seul. C'est sans doute ce qu'il attendait de moi, ça seulement. Que je pénètre de nuit dans la caverne des Tugs, et tandis que Suyodhana allait lui plonger le couteau sacrificiel dans le cœur, je faisais irruption sous les voûtes du temple avec mes 6 pailles au fusil chargé à mitraille, et je le tirais de là sain et sauf. Par chance, j'avais un peu d'argent sur moi. À Paris, j'avais pris un taxi et je m'étais fait conduire rue de la Manticore. Le chauffeur avait juré l'abondance parce que même dans leur guide à eux, on ne la trouvait pas. De fait, c'était une venelle pas plus large que le couloir d'un train du côté de la vieille Bièvre, derrière Saint-Julien-le-Pauvre. Le taxi ne pouvait même pas s'y faufiler et il m'avait laissé au coin. J'étais entré en hésitant dans cette ruelle où ne s'ouvrait aucune porte, mais qui à un certain point s'élargissait un peu là où était la librairie. Je ne sais pas pourquoi elle avait le numéro 3, vu qu'il n'y avait aucun numéro 1 ni 2, pas plus que d'autres. C'était une petite boutique avec une seule lumière, et la moitié de la porte servait de vitrine. Sur les côtés, à peine quelques dizaines de livres suffisamment pour indiquer le genre. En bas, une série de pendules radiesthésiques, de sachets poussiéreux de baguettes d'encens, de petites amulettes orientales ou sud-américaines. De nombreux jeux de tarot dans des styles et des présentations différentes. L'intérieur n'était pas plus confortable. Un amoncellement de livres au mur et par terre avec une petite table au fond et un libraire qui semblait mis là exprès pour permettre à un écrivain d'écrire qu'il était plus vieux que ses livres. Il compulsait un grand registre écrit à la main, se désintéressant de ses clients. D'ailleurs, il n'y avait en ce moment que 2 visiteurs, lesquels soulevaient des nuages de poussière en tirant de vieux volumes, presque tous dépouillés de leur couverture, des étagères croulantes, et ils se mettaient à les lire sans avoir l'air de vouloir acheter. L'unique espace non encombré d'étagères était occupé par une affiche. Des couleurs criardes, une suite de portraits dans des médaillons à double bord, comme sur les affiches du magicien Houdini. Le petit cercle de l'incroyable. Madame Olcott et ses liens avec l'invisible. Une face olivâtre et masculine, 2 bandeaux de cheveux noirs ramassés en chignon sur la nuque, il me semblait avoir déjà vu cette tête. Les derviches hurleurs et leurs danses sacrées, les frics mignons ou les petits-fils de Fortunio Lissetti. Une assemblée de petits monstres pathétiquement immondes, Alex et Denis, les géants d'Avalon, Théo, Léo et Geo Fox, les enlumineurs de l'ectoplasme. La librairie Sloane fournissait vraiment tout, du berceau au tombeau. Même le sain divertissement du soir où amener les enfants avant de les broyer dans un mortier. J'avais entendu sonner un téléphone et vu le libraire déplacer une pile de feuillets jusqu'à ce qu'il repéra le combiné. « Oui, monsieur, s'était-il mis à dire. C'est bien ça. » Il avait écouté pendant quelques minutes en silence, d'abord acquiesçant, puis d'un air perplexe. « Mais, aurais-je dit, à l'usage des présents, comme si tout le monde pouvait écouter ce qu'il entendait et qu'il ne voulait pas en prendre la responsabilité. » Puis, il avait eu cette expression scandalisée du commerçant parisien quand vous lui demandez quelque chose qu'il n'a pas dans son magasin, ou des portiers d'hôtel quand il doit vous annoncer qu'il n'y a plus de chambre libre. « Ah non, monsieur. Ah ça. Non, non, monsieur. Ça n'est pas notre boulot. Ici, vous savez, on vend des livres. On peut bien vous conseiller sur des catalogues, mais ça, Il s'agit de problèmes très personnels, et nous... Oh, alors pour ça, il y a... C'est pas moi, des curés, des... Oui, si vous voulez, des exorcistes. D'accord, je le sais, on connaît des confrères qui se prêtent, mais pas nous. Non, vraiment, la description ne me suffit pas, et quand même. Désolé, monsieur. Comment ? Oui, si vous voulez. C'est un endroit bien connu, mais ne demandez pas mon avis. C'est bien ça, vous savez, dans ces cas-là, la confiance, c'est tout. À votre service, monsieur. Les deux autres clients étaient sortis. Je me sentais mal à l'aise. Je m'étais décidé, j'avais attiré l'attention du vieux en me raclant la gorge. Je lui avais dit que je cherchais une connaissance, un ami qui d'habitude passait par ici, monsieur Aglier. Il m'avait regardé comme si j'étais l'homme du coup de téléphone. Peut-être, avais-je dit, ne le connaissait-il pas comme Aglier, mais comme Rakowski, ou Soltikov, ou... Il m'avait encore regardé en plissant les yeux, sans aucune expression, et fait remarquer que j'avais de curieux amis avec tant de noms. Je lui dis que peu importait, que je demandais comme ça. « Attendez, m'avait-il dit, mon associé va arriver, peut-être connaît-il lui la personne que vous cherchez. Plutôt, asseyez-vous. Là, au fond, il y a une chaise. Je passe un coup de fil et je vérifie. » Il avait soulevé le combiné, composé un numéro, il s'était mis à parler à voix basse. « Casse au bon, m'étais-je dit, tu es plus stupide que Belbo. Maintenant, qu'est-ce que tu attends ?» Qu'ils arrivent et disent « Oh, quel heureux hasard, l'ami de Jacopo Belbo également ici. Venez, venez vous aussi. » Je me levai, mu comme par un ressort, salué et sorti. Je parcourus en une minute la rue de la Manticore, passai par d'autres ruelles, me retrouvai le long de la Seine. « Imbécile, me disais-je, que croyais-tu ? » Arriver là, trouver Aglier, l'attraper par le colbac et lui dire de s'excuser ? Ce n'était qu'une vaste équivoque. Voici votre ami. On ne lui a pas touché un cheveu, et à présent, ils savent que toi aussi, tu es ici. Il était midi passé. Dans la soirée, il serait arrivé quelque chose au conservatoire. Que devais-je faire? J'avais pris la rue Saint-Jacques, et de temps en temps, je jetais un coup d'œil en arrière. À un moment donné, il m'avait semblé qu'un arabe me suivait. Mais pourquoi pensais-je qu'il s'agissait d'un arabe? La caractéristique des arabes, du moins à Paris, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'arabes. À Stockholm, ce serait différent. J'étais passé devant un hôtel. J'étais entré et j'avais demandé une chambre. Alors que je montais avec ma clé par un escalier de bois qui donnait sur un premier étage avec balustrade, d'où l'on apercevait la réception, j'avais vu entrer le présumé arabe. Puis j'avais remarqué d'autres personnes dans le couloir qui auraient pu être arabes. Normal, dans le coin, il n'y avait que des petits hôtels pour arabes. Que prétendais-je ? J'étais entré dans ma chambre. Elle était décente, il y avait même un téléphone, dommage de ne pas vraiment savoir qui appeler. Et là, je m'étais assoupi, inquiet, jusqu'à 3 heures. Ensuite, je m'étais lavé la figure et acheminé vers le conservatoire. Désormais, il ne me restait rien d'autre à faire, entrer dans le musée, y rester après la fermeture et attendre minuit. C'est ce que j'avais fait. Et quelques petites heures avant minuit, je me trouvais dans le périscope, à attendre quelque chose. Netza est pour certains interprètes la séphira de la résistance, de l'endurance, de la patience constante. De fait, une épreuve nous attendait. Mais pour d'autres interprètes, c'est la victoire. La victoire de qui ? Peut-être étais-je pour le moment, dans cette histoire de vaincu, de diabolique berné par Belbo, de Belbo berné par les diaboliques, de Diotelevi berné par ses cellules, le seul victorieux. J'étais aux aguets dans le périscope. Je savais qu'il viendrait, et il ne savait pas que j'étais là. La première partie de mon projet s'était déroulée selon mes plans. Et la deuxième ? Se déroulerait-elle selon mes plans ou selon le plan, qui désormais ne m'appartenait plus ?